Bonjour à toutes et tous. Pour cette nouvelle émission, André et Hervé reçoivent Thierry Patinet, porte-parole d'Attaquoise, qui vient nous parler d'argent. Comment mettre fin aux super-profits, aux ultra-riches, aux mégas injustices et mettre en place une réelle justice fiscale.
En 2022, la France est entrée dans le top 3 du classement du nombre de millionnaires. Dommage, c'est pas pour moi. Alors, même que le nombre de millionnaires diminue dans le reste du monde, la concentration du patrimoine aux mains des plus riches s'accélère, tandis que les super-profits des multinationales explosent et que les dividendes versés par les grands groupes atteignent de nouveaux records.
Bonjour Thierry.
Bonjour Hervé, bonjour André.
Bonjour Thierry.
Alors le sujet aujourd'hui, c'est les méga-profits ou c'est plutôt la justice fiscale?
C'est les deux, comme c'est pas la première fois que je viens à Radio Valois-Mulsien. On a déjà abordé tous ces sujets au travers de prismes différents. Et je tiens à rappeler que, comme on va parler un petit peu de dette aujourd'hui, tout simplement parce que depuis hier, voire même depuis la semaine dernière, c'est ce mot-là qui revient le plus fréquemment dans les médias et dans les discours des gouvernants, et de Bruno Le Maire en particulier. La dette la plus importante qu'on ne pourra jamais payer et qui va être catastrophique, c'est la dette écologique. Et donc, par rapport au thème d'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs formes de dette. Et lorsqu'on parle d'argent, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Alors, il y a plusieurs choses. Comme on avait fait toute une série d'émissions, donc en 2022, André t'a rappelé à 2022, mais 2022 pour moi, d'octobre 2022 à janvier, non, d'octobre 2021 à mars 2022, on a fait une série d'émissions sur la fiscalité, les impôts, la dette, les salaires, la sécu, les banques, l'évasion fiscale. Et donc il y a un certain nombre de thèmes qui vont revenir. Et puis il y a une actualité un petit peu nouvelle. Alors pourquoi on a souhaité parler d'argent aujourd'hui? C'est parce que les Français sont confrontés à une sorte de paupérisation qui est liée à l'inflation, c'est indéniable. Les salaires ne suivent pas, et les prestations sociales non plus. Il y a ce que je viens de dire, là, la question du remboursement de la dette. Et donc apparemment, d'après les chiffres que je ne conteste pas, la dette aurait dépassé largement les 3000 milliards d'euros, donc plus que le PIB d'une année. Dans le même temps, on vient de vivre, en particulier fin janvier, mois de janvier, un gros conflit social autour des questions des paysans et de l'agriculture, où la question du travail non rémunéré des paysans était quand même la question centrale, même si ce n'est pas celle que le gouvernement a retenue. Et puis, depuis quelques semaines, Bruno Le Maire se répand partout en disant qu'il faut réduire absolument les dépenses publiques, 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine, et puis certains estiment que ce serait 50 milliards qu'il faudrait, etc. Donc la question de la rigueur, ou à défaut de l'austérité, revient sur le devant de la scène. Et donc, pourquoi je parlais de l'écologie? C'est parce qu'on travaille vraiment sur le mot d'ordre qui a émergé au moment des Gilets jaunes, fin du monde, fin du mois, même combat. Et c'est bien comprendre les articulations entre ces deux dimensions qui nous permettra de nous en sortir collectivement. Voilà. Donc c'est à la fois contre les riches, mais ce n'est pas contre les personnes qui sont riches. Les gens qui, par leur travail, s'enrichissent, c'est une très bonne chose. La vraie question, c'est que ça doit être dans le cadre d'une justice sociale pour que tout le monde trouve sa place et que l'enrichissement ne produise pas de la dégradation de la planète. J'avais déjà mentionné, et je terminerai cette première intervention là-dessus, un livre d'Hervé Kempf, le directeur de publication de la revue Reporter. C'était en 2007, et le titre, et c'est très expliqué à l'intérieur, c'est très documenté, « Comment les riches détruisent la planète ». Autrement dit, il y a vraiment une relation entre les deux. Voilà.
Là, fin mars, on connaît le taux d'inflation qui est de 5,5% pour ce mois-ci. Hein.
Oui.
Donc, et 110% du PIB d'inflation.
Oui. Alors,
comment on peut faire diminuer notre déficit? Ou est-ce que c'est la facilité, quand on veut faire diminuer le déficit, de taper d'abord sur l'écologie, après sur le social?
Alors, C'est compliqué, il faut répondre à la question, et en même temps, pour répondre à la question, il faut avoir dans sa tête et devant nous, mais là on est à la radio, on n'est pas à la télé, donc on ne peut pas avoir un tableau, un schéma qui mette en relation plusieurs choses, parce que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas ça. Ceux qui disent IACA, de toute façon, ils ont tort, quoi qu'ils disent, hein, d'accord ? Donc c'est complexe. Et je tiens à préciser que même si on n'est pas du tout d'accord avec la politique de ce gouvernement par rapport aux questions de salaire, de liberté, etc., je préfère vivre en France qu'en Russie ou en Chine ou en Corée du Nord ou dans d'autres pays. Donc ayons raison gardée. Ceci étant, la dette, on l'avait expliqué, donc je ne reviens pas dessus, je le dis simplement en une phrase, la dette vient du fait que chaque année, depuis 1974, le budget de la France est en déficit. Alors, quand il est en déficit, ça veut dire que les recettes sont inférieures aux dépenses. Alors, il y a toute une frange de la population, les plus libéraux, qui disent c'est qu'on dépense trop. Et puis, il y a une autre frange qui est plutôt sur la défense des services publics et puis répondre aux besoins sociaux, qui dit non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de recettes. D'où le débat actuel que Bruno Le Maire martèle, non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors, quand on dit, les gens entendent augmentation des impôts, ça donne une sorte de pensée consensuelle où tout le monde dit je suis plutôt d'accord avec Bruno Le Maire, on n'a pas envie que les impôts augmentent. Ce qui est un piège terrible. La vraie question, c'est qu'il faut qu'il y ait des impôts justes, proportionnés aux revenus. Revenus, donc c'est à la fois les salaires, c'est à la fois les prestations et c'est le patrimoine. Aux revenus de chaque famille, de chaque personne. Et la progressivité de l'impôt, c'est la mesure la plus juste socialement pour répondre à tous les défis auxquels on a à faire face. Donc voilà. C'est un point qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, la question de la progressivité. C'est valable aussi bien sur la fiscalité des entreprises. Une petite entreprise qui ne fait pas de super profit, c'est pas normal qu'elle ait un taux d'imposition proportionnellement supérieur aux grands groupes du CAC 40. En plus, il y a autre chose. Je me permets de réinsister sur la dimension de l'articulation justice fiscale sociale et l'écologie. Toutes les entreprises, voire des très grands groupes, qui font actuellement des efforts pour... je résume, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour moins polluer, c'est normal qu'ils aient une fiscalité moindre. C'est-à-dire qu'ils font un effort dans le sens du bien-être pour tous. Et toutes ces choses-là ne sont pas mises à plat avec le souci de faire que les Français comprennent ce qui se joue, qui fait qu'il y a des fausses idées qui circulent. Exemple, les Français paieraient trop d'impôts. Il faut pas de dette parce que la dette, c'est les petits-enfants qui vont la payer, c'est impossible. Donc, tant qu'on ne précise pas de quoi on parle, toutes ces phrases à l'emporte-pièce, c'est uniquement pour brouiller le paysage, pour faire que les gens ne comprennent pas et que celui qui a la plus grande gamelle, c'est lui qui la ramène et c'est lui qui emporte le morceau. Voilà.
On a même l'impression que, à force de bassiner sur la question de la dette, on fait culpabiliser les petites gens, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, pendant ce temps, les plus gros profits continuent d'augmenter, mais alors eux sont culpabilisés.
Alors, on travaille à attaque avec le CADTM, c'est le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, pour l'ensemble des dettes, qui est un organisme qui est dans tous les pays, mais qui travaille essentiellement en Belgique. Et à chaque fois, il nous dit, mais c'est simple, hein, vous avez qu'à faire une chose, enfin, le « vous avez qu'à », il y a qu'à, donc voilà, c'est symbolique. Hein. Vous avez qu'à dire, on arrête de payer, on ne paye pas la dette. Et à partir de ce moment-là, vous verrez quels sont les détenteurs de la dette qui vont se manifester en disant « vous me devez tant, vous me devez tant ». Parce que là, pour l'instant, on dit la dette, mais à qui on doit de l'argent ? Bon. Alors, il est évident que la majorité de la dette, c'est auprès de ce qu'on appelle les marchés financiers. Le marché secondaire en plus, c'est-à-dire les fonds de pension, les groupes assurantiels, tous ces groupes-là. Il y a des gens qui détiennent, il y a des organismes sociaux qui détiennent un petit peu de dette. Il y a des particuliers qui ont acheté des actions, qui fait que c'est aussi un petit peu de dette. Donc, faut faire le ménage dans tout ça pour savoir exactement de quoi on parle. Si c'est des gens qui, si on annule les dettes, la stratégie, c'est d'annuler la dette, ou tout de moins de ne payer que la partie de la dette qui correspondait réellement à des emprunts dans l'intérêt général. quand ce sont des dettes spéculatives, et la majorité des dettes, ce sont des dettes de cette nature-là, il est tout à fait possible de ne pas le payer. Et quand je dis ça, il y a des économistes, des historiens qui ont travaillé sur l'histoire des dettes. Et là-dessus, on est très clair. Hein. C'est un jeu d'écriture, les dettes. C'est un jeu d'écriture qui fonctionne sur la base de la confiance. Autrement dit, on ne paye pas les dettes, il ne se passe strictement rien. Il va se passer des choses parce que ceux à qui on doit de l'argent, les grands groupes financiers, eux, ils vont s'en servir pour nous faire mal, pour nous faire peur, pour nous faire plier. Mais c'est parce qu'ils ont une stratégie politique, c'est pas du tout parce que ça viendra à leur manquer. Comment expliquer, par exemple, que pendant toute une période, la France a emprunté, jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, je crois, à ce qu'on appelle des taux négatifs. C'est-à-dire que non seulement elle empruntait, mais elle s'enrichissait en empruntant. Comprendre les circulations de ces masses monétaires, je suis incapable de le faire. Je suis capable de les comprendre, je suis incapable de les expliquer parce que c'est très complexe, mais ça montre bien que c'est un enjeu d'éducation populaire absolument essentiel et que tout ce qu'on agite actuellement, ça sert essentiellement à une chose, c'est à faire peur aux gens et qui ne les aide pas à comprendre.
Voilà. Alors, qui est-ce qui gouverne ? C'est les gouvernants ou c'est les financiers ?
Alors, je dirais les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens financiers détiennent effectivement une grande partie du pouvoir, mais ils détiennent cette partie du pouvoir parce que ceux qui gouvernent leur laissent les clés d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue légal.
Tu vois, on a une dette qui est 110% du PIB.
Oui.
Si demain, on dit, ben, cette dette, on ne la paye plus.
Oui.
Qu'est-ce qui risque de se passer ?
Alors, comme on est dans un système international basé sur le capitalisme financier, c'est ce qui s'est passé en Grèce en 2015. Il est, du point de vue de ces financiers, impossible de laisser penser à des gens qu'on pourrait annuler même partiellement les dettes. Parce que dans ces cas-là, il n'y aurait plus aucun moyen de pression sur les politiques qu'ils veulent mettre en place. C'est ça l'élément essentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? Sincèrement, on ne peut pas le savoir. Des annulations de dettes, il y en a eu. Il y en a eu des centaines. On a annulé la dette de l'Allemagne, on a annulé des... voilà. Et ce sont des... Encore une fois, ce sont des jeux d'écriture, ce sont des jeux politiciens, des jeux d'équilibre, avec comme idée centrale, c'est qu'au travers du FMI, de la Banque mondiale et de tous ces organismes, il faut absolument maintenir ceux qui créent de la valeur, donc les travailleurs, dans une position dominée. Et la meilleure façon de faire pression sur eux, c'est d'agiter des menaces, plus de salaire, plus de moyens, de services publics, etc. Et il se trouve que les gouvernements, quand tu disais Hervé, mais qui est-ce qui gouverne alors ? C'est les marchés financiers ou les gouvernements ? C'est que la plupart des gouvernements sont des relais, des complices dans cette grande manœuvre. Lorsqu'il y en a vraiment qui veulent s'en sortir, alors dans ces cas-là, ils payent le prix cher quand ils sont trop petits. Et encore une fois, c'est ce qui s'est passé en Grèce en 2015 avec l'expérience de Tsipras et de Syriza. Voilà. Nous pensons sincèrement à TAC qu'il y a la possibilité de demander et de s'organiser pour ne pas payer la totalité des dettes. La dette Covid, telle qu'il l'a fait fonctionner Emmanuel Macron, c'était pas une mauvaise idée. La preuve. Et ça n'a pas porté préjudice. Ça ne veut pas dire non plus que l'argent est magique, que dès l'instant où il y aurait besoin de quelque chose, il faut créer de la monnaie, c'est parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Ceci étant, simplement sur cet aspect des choses pour que j'oublie pas, sur l'aspect finance et transition écologique, j'ai été rechercher les chiffres de l'AIE, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie. Ils estiment qu'il faut 44 000 milliards de dollars d'investissements nécessaires d'ici à 2050 pour accompagner, organiser, aménager les transitions énergétiques et écologiques. Donc ça veut dire que pour faire ces transitions, on va avoir besoin d'investissements. Donc cet argent, l'argent qui circule, il est mis où pour faire quoi ? C'est une question de répartition, de transparence, voilà.
En fait, ATTAC propose un certain nombre de choses pour réduire le déficit.
Alors,
et plus de justice.
Voilà, tout à fait. Alors, je tiens à re-rappeler, c'est une redite, mais parfois, quand l'idée est... elle a besoin d'être rappelée. Donc, s'il y a déficit et s'il y a dette, c'est parce qu'il y a, de notre point de vue, un déficit de recettes de l'État. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on a trop dépensé, les besoins sociaux et les besoins en transition écologique sont très importants et il ne faudra pas faire des économies dessus. Il ne faut pas, sur les 10 milliards que Bruno Le Maire là, veut absolument récupérer, il y en a plus, je crois que c'est 700 millions sur le ministère de la transition écologique, dans l'éducation nationale, etc. Non, ce n'est pas possible alors qu'il y a de tels besoins. Donc, sur le comment augmenter, c'est ça en définitive les propositions d'attaque, c'est essentiellement augmenter les recettes fiscales de l'État et les augmenter avec toujours le souci que ça aille pour donner des moyens pour les transitions, pour la justice sociale, pour l'écologie, et ça doit être fait au prorata en quelque sorte de ce que les uns et les autres gagnent, de façon à ce que ce soit tout à fait faisable. Alors la première, donc là bah, je reprends ma petite feuille, hein, c'est imposer les super profits. Là pendant la période Covid, il y a des entreprises en particulier dans le secteur de la santé qui sont qui se sont fait des en or, comme on dit, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Pendant la période de crise énergétique, tous les énergéticiens se sont fait des super profits. Ouais. Donc il peut y avoir indépendamment de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une progressivité de l'impôt sur les entreprises qui serait une progressivité permanente, qui prenne en compte est-ce que ce sont des salaires, est-ce que ce sont des emplois en CDI, est-ce que ce sont des emplois qualifiés, est-ce que l'entreprise fait des efforts du point de vue de la pollution et de l'émission des gaz à effet de serre. Bref, une entreprise qui, au-delà de son projet d'entreprise de faire des bénéfices et du profit pour réinvestir, ce qui est tout à fait légitime et normal, le ferait dans un cadre de l'intérêt général. Donc là, c'est la question de la progressivité de l'impôt sur les entreprises.
Ouais, non, on parle de l'ensemble des super profits. On voudrait imposer les grandes entreprises.
Oui.
Donc tu en parlais. Par exemple, les entreprises pharmaceutiques ne sont pas obligatoirement françaises. Ce sont des entreprises européennes, voire mondiales. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on impose de trop, à ce que ces entreprises partent de France ?
Alors,
elles ne payent plus du tout d'impôts en France ?
Alors, il y a plusieurs... Quand je disais tout à l'heure, il faut mettre les choses en système. Il n'y a pas IACA. Mais la première chose, c'est que les conditions d'emploi, le niveau de qualification, le système... public autour des entreprises, le fait qu'il y ait des routes qui aillent jusqu'à l'entreprise, que les services soient bien développés, la plupart des entreprises, même non françaises, trouvent que la France est une terre d'accueil extraordinaire pour les entreprises. Donc, ils y réfléchissent à deux fois avant de délocaliser. La deuxième chose, effectivement, vous avez raison, il y a des décisions qui seraient plus utiles si elles étaient prises à une échelle plus grande, soit au niveau de l'Europe, soit au niveau national, international. Au niveau de l'international, là, ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'on appelle le reporting, c'est-à-dire faire que, de manière transparente, les multinationales qui ont un siège social quelque part, en général dans des pays où la fiscalité est la moins forte sur l'entreprise, et avec plein de filiales dans plein de pays, il y ait une mise à plat de où est-ce qu'il y a du travail, où est-ce qu'elles font des profits dans l'ensemble des pays, et il y ait une imposition internationale à peu près équivalente, avec une répartition qui se ferait au prorata du travail qui est fait dans tel pays et tel pays. C'est des demandes qui sont faites par plein d'organisations internationales, auxquelles ATTAC participe en termes de demandes. Voilà. Alors du jour au lendemain, ça ne se ferait pas. Mais quand on voit par exemple que le gouvernement américain, qui n'est pas un système très socialiste, ni communiste, lui, il arrive à faire ça en exigeant la transparence absolue dans tous les comptes bancaires de toutes les entreprises qu'il contrôle en tant que groupe américain, ainsi que pour ses particuliers, c'est-à-dire les Américains en tant qu'habitants, ayant la nationalité. Il oblige les banques à faire de la transparence. Voilà. Donc autrement dit, c'est vraiment une question de volonté politique au plan national et au plan international. Donc là, on participe à ce mouvement-là. Donc du jour au lendemain, ça ne pourrait pas se faire. Mais par rapport à ce que tu dis, ça correspond plutôt à la proposition numéro 2 qui est d'instaurer une taxation unitaire contre l'évasion fiscale. Il est évident que ça doit se faire plutôt à l'échelle du continent européen. Mais encore une fois, faut-il déjà que chaque gouvernement porte cette proposition auprès du Conseil de l'Europe ? Voilà. Et ce serait tout à fait possible.
Et ce qu'on peut quand même voir, c'est que le gouvernement a eu l'intention d'imposer des super profits qui se sont faits pendant la période Covid. Et il y a eu des épisodes assez curieux parce qu'il y a des chiffres qui ont été avancés, puis des chiffres qui ont été abandonnés.
Sincèrement, j'ai plus ces chiffres en tête. Donc,
non plus, j'ai pas les chiffres.
Disons que comme la question est venue fortement en débat dans la société française, ça a traversé y compris le groupe Renaissance. Donc il y a des députés qui, ils sont Renaissance, hein, c'est leur choix, mais qui ont conscience de ce qui est possible de faire, de ce qui serait légitime de faire. Donc ces débats ont traversé toute la société française à ce moment-là. C'est venu sur la table, mais fondamentalement, même s'il y a eu peut-être, sincèrement je n'en sais rien, des modifications dans la taxation de ces grands groupes, on est sur des trucs qui sont peanuts, quoi. Voilà, pas du tout, il n'y a pas eu. Donc ça, c'était le deuxième aspect, instaurer une taxe unitaire contre l'évasion fiscale. Le troisième, c'est le marqueur d'Emmanuel Macron, c'est remettre l'ISF, l'impôt sur la fortune. Il l'a remplacé par l'IFI, l'impôt sur les fortunes immobilières. Il y a une perte au minimum de 6 milliards par an. Et donc, quand on cumule sur X années, par rapport aux 10 milliards que Bruno Le Maire voudrait récupérer, ce serait déjà résolu. C'est pareil sur les gros patrimoines. On l'avait abordé quand on avait fait l'émission sur la fiscalité, sur les impôts. C'est pareil, les Français, quand on leur dit « faut pas imposer les donations, l'héritage », bah, tout le monde qui a fait ses petites économies, ils se voient taxés par une banque, un gouvernement qui serait rapace. On comprend. La question, c'est qu'il doit y avoir une proportionnalité. C'est-à-dire que dès l'instant où c'est une donation, un héritage, je sais, sincèrement, les chiffres, je n'ai plus en tête, mais je donne un ordre de grandeur de 100 000 euros. En dessous, ben, y a rien. Il n'y a pas de taxation, c'est évident. Mais par contre, au-dessus, c'est progressif. Et une progressivité ferait que ça rapporterait, alors je crois que c'était entre 5 et 10 milliards. Voilà. Et en sachant qu'il faut savoir, depuis la recherche de Thomas Piketty, il y a au moins 3-4 ans maintenant, mais c'est confirmé cette année, c'est que la majorité des revenus des gens proviennent maintenant des revenus du patrimoine. Et ça, c'est tout sauf une société dynamique. Donc, comme il va falloir des investissements, j'insiste dessus, il faut qu'il y ait des recettes fiscales dans l'intérêt général. Donc, pour les hôpitaux, pour les enseignants, il y a des manques partout actuellement. Donc, voilà. Il y a encore deux autres... revoir les niches fiscales. Les niches fiscales et sociales, il y en a plusieurs centaines. Alors une niche fiscale, moi quand je fais une donation, tiens, si je donne à RVM, je crois qu'on peut donner à RVM en tant qu'association. Donc je ne sais pas si je ne l'ai pas fait une année d'ailleurs. Donc je vous invite à le faire. Hein. Je vois qu'André et puis Hervé sont d'accord avec moi. Il y a ce qu'on appelle le rescrit fiscal, c'est-à-dire la déduction fiscale à hauteur de 66%. C'est une niche fiscale. Mais c'est une niche qui est incitative pour faire fonctionner les associations, les organisations syndicales, tout un tas d'associations sur l'aide pour les gens dans la pauvreté, sur les questions de santé. Donc c'est une niche qui est socialement très 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 utile. Donc il faut pas dire supprimons toutes les niches fiscales ou les niches fiscales c'est bien. Il faut les étudier les unes après les autres. Sauf que la majorité des niches fiscales sont faites pour permettre aux gros patrimoines de ne pas payer d'impôts. Et donc, je reviens à une idée que j'ai, on a étudié à l'ATAC. Les chiffres sont pas tout à fait justes parce que ça tombe pas pile poil, mais sauf qu'on les arrondit à 3 fois 100 milliards, comme ça parle dans la tête des gens. Chaque année, alors que le budget de l'État pour l'année prochaine, il est de peut-être 312 milliards, je crois. J'ai été vérifié. 312 milliards de recettes pour l'année prochaine. Pour cette année, pardon. C'est la loi de finances. Pour 453 milliards de dépenses. C'est-à-dire qu'il y a encore 146 milliards de déficit, donc qui vont augmenter la dette. Et donc, retenez bien maintenant, on pourrait récupérer 300 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire avoir un budget excédentaire de plus de 150 milliards. Ça changerait la donne. Bon, ces 300 milliards, ces 300 milliards qui manquent, d'où ils viennent ? Encore une fois, c'est des chiffres arrondis pour qu'on le retienne. Le premier, c'est l'évasion fiscale. Le deuxième...
Alors, c'est l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale ?
Alors, on parle d'évasion fiscale. Dans l'évasion fiscale, il y a deux variantes. Il y a l'optimisation, c'est-à-dire qu'on joue sur les textes à la marge pour éviter de payer l'impôt. Et dans ces cas-là, même si on est chopé, on n'est pas fraudeur. Et puis, il y a la fraude fiscale. Là, il y a de la fraude, par contre. Mmh. Donc là, celle-là, elle tombe sous le coup de la loi. Mais cette évasion fiscale correspond à peu près à 100 milliards qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Attends, je termine sur les... Il y a 100 milliards qui correspondent, c'est ça qui m'a fait penser, aux niches fiscales. Et les derniers 100 milliards, c'est les 100 milliards qui ne sont plus perçus au titre de la progressivité de l'impôt. Jusqu'en 1970, sous le général de Gaulle, le taux marginal de l'impôt, c'était 62%. C'est-à-dire qu'il y avait une progressivité de l'impôt. Les gens qui avaient des très gros revenus payaient jusqu'à 62% sur la tranche supérieure d'impôt. Or, depuis, Sarkozy, et ça a été maintenu, c'est descendu à 45%. Donc ça veut dire que des gens qui gagnent des milliards, et le troisième milliardaire au monde, c'est Bernard Arnault, hein, si je ne m'abuse, enfin d'après ce qu'on me dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, ils ne payent que 45% d'impôt sur l'ensemble de ses revenus. Et donc, ces non-revenus, c'est aussi 100 milliards. Donc retenez bien, c'est ça qu'il faut avoir en masse. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, même s'il y a des résistances des marchés financiers, même si, est-ce qu'on va dans un sens qui permette de doubler le budget de l'État, c'est-à-dire de 312 milliards à 612 milliards, donc il n'y a plus de déficit, on pourrait prêter aux pays étrangers qui sont en difficulté, donc pour tous ceux qui votent Front National par rapport à la peur de l'immigration, là, tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut d'abord aider les pays là où les gens sont. Si on veut réussir la transition écologique, c'était la dernière COP28, l'enjeu a été d'exiger des pays pauvres qu'ils ne retirent pas de leur sol le pétrole, le gaz et le charbon. Donc on leur demande de ne pas se développer. Si on leur donnait... Bon voilà, vous avez compris que vraiment, la dette, elle s'articule avec la dette écologique et donc il y aurait des possibilités.
Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ?
Toutes ces informations, c'est sur le site d'Attaque, c'est attaquoise.org, en sachant que là, c'est plutôt des informations un peu de seconde main qui sont sur les activités qu'on fait, les débats, les ciné-débats dans les cinémas, différentes actions qu'on organise. Et autrement, le mieux, c'est d'aller sur le site d'Attaque. En tapant Attaque, on tombe automatiquement sur Attaque France. Et là, il y a un wiki Attaque qui permet dossier par dossier d'avoir une documentation relativement à jour et vérifiable du point de vue des chiffres qu'on avance. Donc on est optimiste, c'est-à-dire que dès l'instant où les gens ont compris que il y a une sorte de brouillard, on est maintenu dans un brouillard, et dès l'instant où on arrive à y voir un petit peu plus clair, même si tout n'est pas possible, l'intérêt général fait qu'on devrait pouvoir s'en sortir dès l'instant où les mesures fiscales vont dans le bon sens. Ce qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait le cas. Et c'est pour ça qu'on est venu pousser un petit coup de gueule et ramener notre fraise à RVM.
Eh bien, c'était André et Hervé qui recevaient Thierry Patinet, représentant d'Attaque Oise, concernant les propositions d'Attaque Oise pour une meilleure justice fiscale.